Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 7, chapitre 2. Un prince étranger. Conseil des politiques. Conférence entre le confesseur et le chancelier. Inutilité de ses manœuvres. Activité d'Aléandre. Parole de Luther. Charles se rend au pape. Mais tout cela importait peu aux politiques. Quelle que fût la haute idée que Charles se faisait de la dignité impériale, l'Allemagne n'était point le centre de ses intérêts et de sa politique. Il ne comprenait ni la langue, ni l'esprit allemand. Il fut toujours un duc de Bourgogne qui, à plusieurs autres sceptres, joignait la première couronne de la chrétienté. Chose remarquable, au moment de sa transformation la plus intime, l'Allemagne se donnait pour chef un prince étranger, aux yeux duquel les besoins et les tendances de la nation n'avaient qu'une importance secondaire. Le mouvement religieux n'était point sans doute indifférent au jeune empereur, mais il n'avait de signification pour lui qu'en tant qu'il menaçait le pape. La guerre entre Charles et la France ne pouvait être évitée. Cette guerre devait avoir lieu principalement en Italie. L'alliance du pape devenait donc toujours plus nécessaire au projet de Charles. Il eût voulu ou détacher Frédéric de Luther ou satisfaire le pape sans blesser Frédéric. Plusieurs de ceux qui l'entouraient montraient dans l'affaire du moine Augustin cette froideur dédaigneuse que les hommes politiques affectent d'ordinaire quand il s'agit de religion. « Rejetons les partis extrêmes, disait-il. Enlaçons Luther par des négociations et réduisons-le au silence en lui cédant quelque chose. Étouffer et non attiser, voilà la vraie marche à suivre. Si le moine se prend au filet, nous sommes vainqueurs. En acceptant une transaction, il se sera interdit et perdu lui-même. On décrétera pour l'apparence quelques réformes extérieures. L'électeur sera satisfait, le pape sera gagné et les choses reprendront leur cours ordinaire. » Tel est le projet que formèrent les intimes de l'empereur. Les docteurs de Wittenberg paraissent avoir deviné cette politique nouvelle. « Ils essaient en cachette de gagner les esprits, dit Mélenchon, et travaillent dans les ténèbres. » Le confesseur de Charles Quint, Jean Glapion, homme considéré, courtisan habile, moine plein de finesse, se chargea de l'exécution du projet. Glapion possédait toute la confiance de Charles, et ce prince, suivant en cela les mœurs espagnoles, lui remettait presque entièrement le soin des affaires qui se rapportaient à la religion. Dès que Charles eut été nommé empereur, Léon X s'était empressé de gagner Glapion par des faveurs auxquelles le confesseur avait été très sensible. Il ne pouvait mieux répondre aux grâces du pontife qu'en réduisant l'hérésie au silence, et il se mit à l'œuvre. Parmi les conseillers de l'électeur se trouvait le chancelier Grégoire Bruck, ou Pontanus, homme plein de lumière, de décision, de courage, qui en savait plus en théologie que tous les docteurs et dont la sagesse pouvait tenir tête à la ruse des moines de la cour de Charles Quint. Glapion, connaissant l'influence du chancelier, lui demanda un entretien et, s'approchant de lui comme s'il eût été l'ami du réformateur, « Je fus rempli de joie, lui dit-il avec un air de bienveillance, quand en lisant les premiers écrits de Luther, je reconnus en lui un arbre vigoureux qui avait poussé de beaux rameaux les mêmes choses. Toutefois, nul, si ce n'est lui, n'a eu le noble courage de publier sans crainte la vérité. Mais quand je lus son livre sur la captivité de Babylone, il me sembla qu'on me rouait de coups et qu'on me brisait de la tête aux pieds. « Je ne crois pas, ajouta le moine, que le frère Martin s'en déclare l'auteur. Je n'y trouve ni son style ni sa science. » Après quelques discussions, le confesseur poursuivit. « Introduisez-moi auprès de l'électeur et je lui exposerai en votre présence les erreurs de Luther. » Le chancelier répondit que les occupations de la diète ne laissaient pas de loisir à son Altesse, qui d'ailleurs ne se mêlait point de cette affaire. Le moine se vit avec peine débouté de sa demande. « Au reste, lui dit le chancelier, puisque vous dites vous-même qu'il n'y a pas de mal sans remède, expliquez-vous. » Prenant alors un air confidentiel, le confesseur répondit « L'empereur désire ardemment voir un homme tel que Luther réconcilié avec l'Église, car ses livres, avant la publication du traité sur la captivité de Babylone, ont passablement plu à sa majesté. La colère que la bulle causait à Luther lui a seule sans doute dicté ce dernier écrit. Qu'il déclare n'avoir point voulu troubler le repos de l'Église, et les savants de toutes les nations se rangeront avec lui. Procurez-moi une audience de son Altesse. » Le chancelier se rendit auprès de Frédéric. L'électeur savait bien qu'une rétractation quelconque était impossible. « Dites au confesseur, répondit-il, que je ne puis condescendre à sa requête et continuer la conférence. » Glapion reçut ce message avec de grandes démonstrations de respect et, changeant de batterie, il dit « Que l'électeur nomme quelques hommes de confiance pour délibérer sur cette affaire. » Le chancelier. « L'électeur ne prétend point défendre la cause de Luther. » Le confesseur. « Eh bien, vous, du moins, traitez avec moi. Jésus-Christ m'est témoin que je fais tout cela par amour pour l'Église et pour Luther, qui a ouvert tant de cœurs à la vérité. » Le chancelier, ayant refusé de se charger d'une tâche qui était celle du réformateur, se disposa à se retirer. « Restez, lui dit le moine. » Le chancelier. « Qu'y a-t-il donc à faire ? » Le confesseur. « Que Luther nie d'être l'auteur de la captivité de Babylone. » Le chancelier. « Mais la bulle du pape condamne tous ses autres ouvrages. » Le confesseur. « C'est à cause de son opiniâtreté. S'il rétracte son livre, le pape, dans toute sa puissance, peut facilement le remettre en grâce. Quelles espérances ne pouvons-nous pas concevoir maintenant que nous avons un si excellent empereur ?» S'apercevant que ces paroles faisaient quelque effet sur le chancelier, le moine se hâta d'ajouter « Luther veut toujours argumenter d'après la Bible. La Bible, elle est comme de la cire et se laisse étendre et plier comme l'on veut. Je me fais fort de trouver dans la Bible des opinions plus étranges encore que celles de Luther. Il se trompe quand il change en commandement toutes les paroles de Jésus-Christ. » Puis, voulant agir aussi par la crainte sur son interlocuteur, il ajouta « Qu'arriverait-il si aujourd'hui ou demain l'empereur en venait aux armes? Pensez-y. » Il permit ensuite à Pontanus de se retirer. Le confesseur préparait de nouveaux pièges. « Quand on aurait vécu 10 ans avec lui, disait Erasme, on ne le connaîtrait pas encore. »« Quel excellent livre que celui de Luther sur la liberté du chrétien, dit-il au chancelier quand il le revit quelques jours après. Que de sagesse, que de talent, que d'esprit, c'est ainsi que doit écrire un vrai savant. » Qu'on choisisse de part et d'autre des hommes irréprochables et que le pape et Luther s'en remettent à leur jugement. Nul doute que Luther n'ait le dessus sur plusieurs articles. J'en parlerai avec l'empereur lui-même. Croyez-moi, ce n'est pas de mon chef que je vous dis ces choses. J'ai dit à l'empereur que Dieu le châtierait, ainsi que tous les princes, si l'Église, qui est l'épouse de Christ, n'était pas lavée de toutes les tâches qui la souillent. J'ajoutais que Dieu lui-même avait suscité Luther et lui avait ordonné de reprendre vivement les hommes, se servant de lui comme d'une verge pour punir les péchés du monde. Le chancelier, entendant ces paroles qui reproduisent les impressions du temps et qui montrent quelle opinion on avait alors de Luther, même parmi ses adversaires, crut devoir exprimer son étonnement de ce qu'on ne témoignait pas plus d'égard à son maître. « On délibère chaque jour chez l'empereur sur cette affaire, dit-il, et l'électeur n'y est pas invité. Il lui semble étrange que l'empereur, qui lui doit quelque reconnaissance, l'exclue de ses conseils. » Le confesseur. « Je n'ai assisté qu'une seule fois à ces délibérations et j'ai entendu l'empereur résister aux sollicitations des nonces. D'ici à 5 ans, on aura vu ce que Charles aura fait pour la réformation de l'Église. » L'électeur, répondit Pontanus, ignore les intentions de Luther. Qu'on le fasse venir et qu'on l'entende. Le confesseur répondit, en soupirant profondément, « Je prends Dieu à témoin de l'ardent désir qui m'anime de voir s'accomplir la réformation de la chrétienté. » Traîner l'affaire en longueur, fermer en attendant la bouche à Luther, voilà tout ce que proposait Glapion. En tout cas, que Luther ne vienne pas à Worms. Un mort revenant de l'autre monde et apparaissant au milieu de la diète eût moins effrayé les nonces, les moines et toute l'armée du pape que la vue du docteur de Wittenberg. Combien de jours faut-il pour se rendre de Wittenberg à Worms ? Demanda le moine au chancelier en affectant un air indifférent. Puis, priant Pontanus de présenter à l'électeur ses très humbles salutations, il le quitta. Telles furent les manœuvres des courtisans. La fermeté de Pontanus les déjoua. Cet homme juste fut inébranlable comme un roc dans toutes les négociations. Au reste, les moines romains tombaient eux-mêmes dans les pièges qu'ils tendaient à leurs ennemis. « Le chrétien, disait Luther dans son langage figuré, est comme l'oiseau que l'on attache près d'une trappe. Les loups et les renards tournent autour et s'élancent pour le dévorer, mais ils tombent dans le trou et périssent, tandis que l'oiseau timide demeure en vie. C'est ainsi que les saints anges nous gardent et que les loups dévorants, les hypocrites et les persécuteurs ne peuvent nous faire aucun mal. Non seulement les artifices du confesseur furent inutiles, mais encore ses aveux affermirent Frédéric dans la pensée que Luther avait raison et que son devoir était de le défendre. Les cœurs inclinaient toujours plus vers l'Évangile. Un prieur des Dominicains proposa que l'empereur, les rois de France, d'Espagne, d'Angleterre, de Portugal, de Hongrie et de Pologne, le pape et les électeurs nommassent des représentants auxquels on confierait la décision de cette affaire. Jamais, disait-il, on ne s'en est rapporté au pape seul. Les dispositions des esprits devenaient telles qu'il semblait impossible de condamner Luther sans l'entendre et le convaincre. Aléandre s'en inquiéta et déploya une énergie toute nouvelle. Ce n'est plus seulement à l'électeur et à Luther qu'il doit tenir tête. Il voit avec horreur les négociations secrètes du confesseur, la proposition du prieur, le consentement des ministres de Charles, l'extrême froideur de la piété romaine chez les amis les plus dévoués du pontife, en sorte qu'on eût cru, dit Pallavicini, qu'un torrent d'eau glacée avait passé par-dessus. Il avait enfin reçu de Rome de l'or et de l'argent. Il avait en main les brefs énergiques adressés aux hommes les plus puissants de l'Empire. Craignant de voir échapper sa proie, il comprit que c'était le moment d'un coup décisif. Il remit les brefs, il répandit l'or et l'argent à pleine main, il distribua les promesses les plus attrayantes, et armé de cette triple industrie, dit l'historien cardinal, il s'efforça d'incliner de nouveau en faveur du pape l'assemblée chancelante des électeurs. Mais ce fut surtout l'empereur qui l'entoura de ses pièges. Il profita des dissensions des ministres belges avec les ministres espagnols. Il obséda le prince. Tous les amis de Rome, réveillés par sa voix, sollicitèrent le jeune Charles. Chaque jour, écrit l'électeur à son frère Jean, on délibère contre Luther. On demande qu'il soit mis au ban par le pape et par l'empereur. On s'efforce de toutes les manières de lui nuire. Ceux qui font parade de leur chapeau rouge, les Romains, avec toute leur secte, déploient pour cette œuvre un zèle infatigable. En effet, Aléandre pressait la condamnation du réformateur avec une violence que Luther appelle une merveilleuse furie. Le nonce apostat, comme le nomme Luther, entraîné par la colère au-delà des bornes de la prudence, s'écria même un jour « Si vous prétendez, ô Germains, secouer le joug de l'obéissance romaine, nous ferons en sorte que, levant les uns contre les autres un glaive exterminateur, vous périssiez tous dans votre propre sang. » Voilà comment le pape « paie les brebis de Christ », ajoute le réformateur. Mais ce n'est pas ainsi qu'il parlait lui-même. Il ne demandait rien pour sa personne. « Luther est prêt, disait Mélenchon, à acheter au prix de sa vie la gloire et l'avancement de l'Évangile. » Mais il tremblait en pensant aux désolations dont sa mort pourrait être le signal. Il voyait un peuple égaré, venger peut-être son martyr dans le sang de ses adversaires, et surtout des prêtres. Il repoussait une si terrible responsabilité. Dieu, disait-il, arrête la furie de ses ennemis, mais si elle éclate, alors on verra fondre sur les prêtres un orage semblable à celui qui a ravagé la Bohême. J'en suis net, car j'ai demandé avec instance que la noblesse germanique arrêtât les Romains par la sagesse et non par le glaive. Faire la guerre contre des prêtres, peuple sans courage et sans force, c'est la faire contre des femmes et des enfants. Charles Quint ne résista pas aux sollicitations du nonce. Sa dévotion belge et espagnole avait été développée par son précepteur, Adrien, qui occupa plus tard le trône pontifical. Le pape lui avait adressé un bref pour le supplier de donner force légale à sa bulle par un édit impérial. « C'est en vain, lui disait-il, que Dieu vous aurait revêtu du glaive de la puissance suprême si vous ne vous en servez soit contre les infidèles, soit contre les hérétiques, qui sont bien pires qu'eux. » Un jour donc, au commencement de février, au moment où tout s'apprêtait dans Worms pour un brillant tournoi et où l'attente de l'empereur était déjà dressée, les princes qui se préparaient à assister à la fête furent invités à se rendre au palais impérial. Là, après leur avoir lu la bulle du pape, on leur présenta un édit sévère qui ordonnait son exécution. « Si vous savez quelque chose de mieux, ajoutait l'empereur, suivant la coutume, je suis prêt à vous entendre. » Alors commencèrent en diète des débats animés. Le moine, écrivait un député d'une ville libre d'Allemagne, nous donne beaucoup à faire. Les uns voudraient le mettre en croix et je pense qu'il n'y échappera pas. Seulement, il est à craindre qu'il ressuscite le troisième jour. L'empereur avait cru qu'il pourrait publier son édit sans opposition de la part des États, mais il n'en fut pas ainsi. Les esprits n'y étaient point préparés. Il fallait gagner la diète. « Convainquez cette assemblée, » dit le jeune monarque au nonce. C'était tout ce que désirait Aléandre. On lui promit qu'il serait admis en diète le 13 février. Livre 7, chapitre 3. Aléandre admis en diète, discours d'Aléandre, Luther accusé, Rome justifiée, appel à Charles contre Luther, effet du discours du nonce. Le nonce se prépara à cette audience solennelle. L'œuvre était importante, mais Aléandre en était digne. Ambassadeur du souverain pontife et entouré de tout l'éclat de sa charge, il était aussi l'un des hommes les plus éloquents de son siècle. Les amis de la Réformation n'attendaient pas sans crainte cette séance. L'électeur, prétextant une indisposition, s'abstint d'y assister, mais il donna à quelques-uns de ses conseillers l'ordre de s'y rendre et de recueillir le discours du nonce. Le jour arrivé, Aléandre s'achemina vers l'Assemblée des princes. Les esprits étaient échauffés. Plusieurs se rappelaient Anne ou Caïphe se rendant au prétoire pour demander la mort de cet homme qui séduisait la nation. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 2. Au moment où le nonce allait franchir le seuil de la porte, l'huissier de la diète, dit Pallavicini, s'approchant de lui vivement, lui mit les poings sur la poitrine et le repoussa. Il était luthérien dans l'âme, ajoute l'historien romain. Si cette histoire est vraie, elle montre sans doute une étrange passion. Mais en même temps, elle donne la mesure de la puissance avec laquelle la parole de Luther avait ému jusqu'à ceux-là même qui gardaient la porte du Conseil de l'Empire. Le superbe Aléandre, se redressant avec dignité, poursuivit son chemin et entra dans la salle. Jamais Rome n'avait été appelée à faire son apologie devant une si auguste assemblée. Le nonce plaça devant soi les pièces de conviction qu'il avait jugées nécessaires, les livres de Luther et les bulles des papes. Puis la diète, ayant fait silence, il dit « Très auguste empereur, très puissant prince, très excellent député, je viens soutenir devant vous une cause pour laquelle je sens brûler en mon cœur la plus véhémente affection. Il s'agit de retenir sur la tête de mon maître cette tiare que tous adorent. Il s'agit de maintenir ce trône papal pour lequel je serai prêt à livrer mon corps aux flammes si le monstre qui a enfanté l'hérésie naissante que je viens combattre pouvait, consumé par le même bûcher, mêler ses cendres aux miennes. Non, tout le dissentiment entre Luther et Rome ne roule pas sur les intérêts du pape. J'ai devant moi les livres de Luther, et il suffit d'avoir des yeux au front pour reconnaître que ce sont les saintes doctrines de l'Église qui l'attaquent. Il enseigne que ceux-là seuls communient dignement dont les consciences sont remplies de tristesse et de confusion sur leurs péchés, et que le baptême ne justifie personne si l'on a la foi en la promesse dont le baptême est le gage. Il nie la nécessité de nos œuvres pour obtenir la gloire céleste. Il nie que nous ayons la liberté et la puissance d'observer la loi naturelle et divine. Il affirme que nous péchons nécessairement dans toutes nos actions. Est-il jamais sorti de l'arsenal de l'enfer des traits plus propres à rompre le frein de la pudeur ? Il prêche l'abolition des vœux religieux. Peut-on imaginer une impiété plus sacrilège? Quelle désolation ne verra-t-on pas dans le monde quand ceux qui devaient être le levain des peuples jetteront leurs vêtements sacrés, abandonneront les temples qu'ils faisaient retentir de leurs saints cantiques et se plongeront dans l'adultère, l'inceste et la dissipation? Énumérerai-je tous les crimes de ce moine audacieux? Il pèche contre les morts, car il nie le purgatoire. Il pèche contre le ciel, car il dit qu'il ne croirait pas même un ange des cieux. Il pèche contre l'Église, car il prétend que tous les chrétiens sont prêtres. Il pèche contre les saints, car il méprise leurs écrits vénérables. Il pèche contre les conciles, car il nomme celui de Constance une assemblée de démons. Il pèche contre le monde, car il défend de punir de mort quiconque n'a pas commis un péché mortel. Quelques-uns disent qu'il est un homme pieux. « Je ne veux pas attaquer sa vie, mais seulement rappeler à cette assemblée que le diable trompe les peuples sous les apparences de la vérité. » Aléandre, ayant parlé du purgatoire, condamné par le concile de Florence, déposa aux pieds de l'empereur la bulle du pape sur ce concile. L'archevêque de Mayence la releva et la remit aux archevêques de Cologne et de Trèves, qui la reçurent avec gravité et la firent passer aux autres princes. Puis le nonce, ayant accusé Luther, en vint à son second point, qui était de justifier Rome. « À Rome, dit Luther, on promet une chose de la bouche et l'on fait le contraire de la main. Si ce fait est vrai, ne faut-il pas en tirer une conséquence tout opposée ? Si les ministres d'une religion vivent conformément à ses préceptes, c'est une marque qu'elle est fausse. Telle fut la religion des anciens Romains, telle est celle de Mahomet et celle de Luther lui-même. Mais telle n'est pas la religion que les pontifes de Rome nous enseignent. Oui, la doctrine qu'ils professent les condamne tous, comme ayant commis des fautes, plusieurs comme coupables, et même quelques-uns, je le dis ingénument, comme criminels. Cette doctrine livre leurs actions au blâme des hommes pendant leur vie, à l'infamie de l'histoire après leur mort. Or, quel plaisir, quelle utilité, je le demande, eussent trouvé les pontifes à inventer une telle religion ? L'Église, dira-t-on, n'était point au premier siècle gouvernée par les pontifes romains. Qu'en conclura-t-on ? Avec de tels arguments, on pourrait persuader aux hommes de se nourrir de glands et aux princesses de laver elles-mêmes leur linge. Mais c'était à son adversaire, au réformateur, qu'en voulait surtout le nonce. Plein d'indignation contre ceux qui disaient qu'il devait être entendu, « Luther, s'écria-t-il, ne se laissera instruire par personne. Déjà le pape l'avait cité à Rome, et il ne s'y est point rendu. Alors le pape l'a cité à Augsbourg, devant son légat, et il n'a paru qu'avec un sauf conduit de l'empereur, c'est-à-dire après qu'on eût lié les bras du légat et qu'on ne lui eût laissé de libre que la langue. « Ah !» dit Aléandre en se tournant vers Charles Quint, « je supplie votre majesté impériale de ne pas faire une chose qui tournerait à son opprobre. Qu'elle ne se mêle pas dans une affaire où les laïcs n'ont rien à voir. Faites votre œuvre, que la doctrine de Luther soit interdite par vous dans tout l'Empire, que ses écrits soient partout brûlés. Ne craignez point, il y a dans les erreurs de Luther de quoi faire brûler 100 000 hérétiques. Et qui avons-nous à craindre ? Cette populace ? Elle se montre terrible avant la bataille par son insolence, mais méprisable dans le combat par sa lâcheté. Les princes étrangers, mais le roi de France a défendu l'entrée de son royaume à la doctrine de Luther. Le roi d'Angleterre lui prépare un coup de sa royale main. Ce que pensent la Hongrie, l'Italie, l'Espagne, vous le savez. Et il n'est aucun de vos voisins, quelle que soit sa haine contre vous, qui vous souhaite un mal tel que cette hérésie. Car si la maison de notre ennemi est proche de la nôtre, nous pouvons lui désirer la fièvre, mais non pas la peste. Que sont tous ces luthériens ? Un ramas de grammairiens insolents, de prêtres corrompus, de moines déréglés, d'avocats ignorants, de nobles dégradés et de gens du commun égarés et pervertis. Combien le parti catholique n'est-il pas plus nombreux, plus habile, plus puissant ? Un décret unanime de cette illustre assemblée éclairera les simples, avertira les imprudents, décidera ceux qui hésitent, affermira les faibles. Mais si la cognée n'est pas mise à la racine de cette plante vénéneuse, si le coup de mort ne lui est pas porté, alors je la vois courir de ses rameaux, l'héritage de Jésus-Christ, changer la vigne du Seigneur en une horrible forêt, transformer le royaume de Dieu en une tanière de bêtes sauvages et mettre l'Allemagne en cet affreux état de barbarie et de désolation auquel l'Asie a été réduite par la superstition de Mahomet. Le nonce se tut. Il avait parlé durant 3 heures. L'entraînement de son éloquence avait ému l'assemblée. Les princes, ébranlés, effrayés, dit Cochléus, se regardaient les uns les autres, et bientôt des murmures se firent entendre de divers côtés contre Luther et ses partisans. Si le puissant Luther eût été présent, s'il eût pu répondre à ce discours, si profitant des aveux qu'avait arrachés à l'orateur romain le souvenir de son ancien maître, l'infâme Borgia, il eût montré que ses arguments, destinés à défendre Rome, étaient sa condamnation même. S'il eût fait voir que la doctrine qui mettait en évidence son iniquité n'était pas inventée par lui, comme le disait l'orateur, mais était cette religion que Christ avait donnée au monde et que la Réformation rétablissait en son éclat primitif, s'il eût présenté un tableau exact et animé des erreurs, des abus de la papauté, et fait voir comment elle faisait de la religion de Jésus-Christ un moyen d'élévation et de rapine, l'effet de la harangue du nonce eût au moment même été nul, mais personne ne se leva pour parler. L'assemblée resta sous l'impression de ce discours et, émue, entraînée, elle se montra prête à arracher avec violence du sol de l'Empire l'hérésie de Luther. Néanmoins, cette victoire n'était qu'apparente. Il était dans la volonté de Dieu que Rome eut l'occasion de déployer ses raisons et ses forces. Le plus grand de ses orateurs avait parlé dans l'Assemblée des princes. Il avait dit ce que Rome avait à dire. Mais c'était précisément ce dernier effort de la papauté qui, pour plusieurs de ceux qui l'entendaient, devait devenir le signe de sa défaite. S'il faut confesser hautement la vérité pour qu'elle triomphe, pour que l'erreur périsse, il n'y a aussi qu'à la publier sans réserve. Ni l'une ni l'autre, pour accomplir sa course, ne doit être cachée. La lumière juge de toutes choses.